Nation. Music and lore. Avec Rémo Tatin. Musique Elnol n'est pas seulement une émission de radio, c'est aussi une association qui organise des manifestations, concerts, one-man shows, théâtre, pour vous faire découvrir des artistes de la région, mais aussi de toute la France et de l'Europe. Nous avons la chance d'avoir notre parrain, qui est Simon Fage, depuis la création de l'association. Bienvenue dans votre émission.
Chers auditeurs, votre mission, si vous l'acceptez de l'entreprendre, sera d'écouter cette émission et de vous divertir. Si vous veniez à être pris en train de nous écouter, nous serions dans l'obligation de vous remercier chaudement. Cette bande ne s'autodétruira pas dans les 30 secondes.
On est toujours dans les rues d'Avignon, on est en face du Paris, et qui que c'est qui arrive ? C'est Margot de Marissa. Comment tu vas ?
Eh ben ça va, Eti.
Mais je suis en vent, je me balade dessus, et puis on est bien, il fait court, mais il y a un peu de vent, ça fait comme chez nous, quoi.
Il fait plus court que chez nous, quoi, ça c'est sûr.
Mais il y a un peu de vent, comme chez nous.
Un petit peu de vent, ouais.
Mais il n'y a pas d'eau.
Il n'y a pas d'eau.
Il y a du ricard.
Il y a du ricard.
Mais il est pur.
Il est pur.
Alors qu'est-ce que tu fais ici ?
Moi j'accompagne Lucie Carbone, qui a son spectacle Badaboum au Théâtre Le Paris. Et donc je l'aide à distribuer les flyers, à soutien psychologique, moral, parce que c'est son premier Avignon. Je fais des salades aussi, de pommes de terre avec des haricots verts. Je lui conseille de repasser son pantalon. Voilà.
Et tu sais bien vous, mais elle joue à quelle heure ?
À 20h45.
Donc au Paris ?
Au Paris, tout à fait. Bah, tu peux lui demander, parce que regarde, ça tombe bien, il est juste à côté de nous.
Je voudrais savoir, il paraît que tu vas faire un plateau le 17 ici à Avignon et puis le 19.
Tout à fait. 17 au Théâtre Locarno à 22h. Et
pourquoi tu prends un accent du Sud ?
Parce que je m'adapte. C'est pour montrer aux auditeurs que je parle avec l'accent du Nord et avec l'accent du Sud. 19, normalement.
Et tu vas parler de quoi ?
C'est un petit extrait de mon spectacle. Voilà, tu verras, parce que tu vas venir en plus.
Bien sûr que je vais venir. Donc tu vas passer chez notre ami Stéphane au Carnot. Et puis tu vas jouer avec Émilie, que tu as l'habitude de voir à Lille.
Avec Émilie, avec Lucie, avec Tani, avec Leïla et avec Madame Meuf. Voilà, voilà.
Ah, la transition, elle va dire Madame Meuf. Non, ben voilà.
Yeah.
Ça va bien là.
Tu viens d'où, quelle région?
Moi je viens de Perpignan. Je suis tout en bas. Tu peux pas faire plus en bas, je pense. Après, c'est l'Espagne quoi.
T'es pas loin de Sigean?
Je suis pas loin de Sigean, c'est vrai. Il y a un super zoo de Sigean. Ouais, Perpignan jusqu'à mes 17 ans. Après, j'ai fait des petites études. Enfin, j'ai fait des études à Toulouse. Et là, ça fait une dizaine d'années que je suis à Paris. Et apparemment, j'ai perdu l'accent du sud. Alors, bon.
C'est vrai?
Ouais, bah ouais. Je sais pas, je crois, quand j'appelle ma mère au téléphone plus de 10 minutes.
C'est normal.
Ouais, tout le monde me dit ça, mais sinon je crois qu'il est plutôt discret, ouais.
Par contre, t'as pas l'accent non plus de Paris.
Ouais, non, j'ai pas d'accent, je crois que c'est assez neutre. Ouais, accent tranquille, pas d'accent prépondérant. Et du coup, tu viens de Lille?
Moi, je viens de Lille, là, comme Margot, hein, comme ta copine, là.
Comme la petite de Maurice. Margot, oui. On parle de toi, là.
C'est
ça. J'ai pas réussi. Mais j'aime beaucoup les Welsh. J'adore les Welsh.
Oh là là. Je me suis goûté un Welsh au Marwell, elle a adoré le Welsh.
Moi j'adore, on a pris ça par 35 degrés.
Eh ben, j'ai quand même aimé, tu vois. Moi, j'aime la vie, tu vois. Un Welsh par 35 degrés avec un petit pinard, on s'est dit oui. Hein.
Bien sûr.
On se donne rendez-vous lundi et tu vas nous raconter ta vie.
Allez, ben, avec grand plaisir.
Ça... Puis Margot aussi. Hein.
Évidemment.
Eh ben, ce sera une pierre deux coups. Merci les filles. I open my eyes. Look around. I stand up. I walk. Yes, I walk. Can't see the sky. But I feel, well, I feel alone. I can see a flower grow and the sun up in the sky. All around is full of life, though I feel On est toujours à Avignon, on est au Paris. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors Bruno, qui es-tu chez 20h40 ?
Qui es-tu ? Je suis le créateur de 20h40 à la base. J'ai monté cette société il y a 14 ans après avoir travaillé en tant que producteur exécutif chez Juste Pour Rire pendant 10 ans. Et donc j'ai volé de mes propres ailes en 2006. J'ai monté cette société en 2006.
Alors pourquoi à Lille ?
Pourquoi à Lille ? Au départ, non, c'était une société parisienne. Et puis, c'est vrai que le bureau administratif était à Lille, puisque je suis associé avec Guy Marseguera, qui est gestionnaire de Véron Productions. Et donc, on est amis de longue date, puisqu'on a commencé notre parcours professionnel il y a un peu plus de 30 ans. Et donc, ça a été une logique entre copains. Chez 20h40 Productions, c'est une société de production et de diffusion. Donc, souvent, les artistes sont sur des contrats de 3 ans. Donc, en 14 ans, on a représenté des artistes comme Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, Baptiste Le Caplin, Stéphane Guillon, Pablo Mira, Sophia Aram, Laurent Baffy. On est aussi sur une partie équestre, puisqu'on travaille avec. On a monté le dernier spectacle de Mario Loracci, qui est un spectacle de haute envergure, parce qu'on travaille avec 20 cascadeurs et 40 chevaux sur la route. On travaille également avec le cadre noir de Saumur. En plus, on a toute une partie développement, d'où ma présence à Avignon, puisqu'on s'occupe d'Olivia Moore, des jumeaux, de Giovanni, de Jérémy Lorca, etc., etc.
Et dont le parrain de notre association, qui est Simon Fache, que tu as eu.
Tout à fait, Simon Fache est un ami. On a développé un spectacle ensemble. Aujourd'hui, ce spectacle était en fin de parcours, on va dire, puisque ça a quand même une durée de vie. Donc, oui, Simon fait partie de la bande rapprochée.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as préparé cet Avignon ? Parce qu'on s'est dit tous, ça va être un Avignon spécial.
Bah, vu l'état du confinement qu'il y a eu ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on était un petit peu paniqué de venir à Avignon, pour ma part, je ne souhaitais pas forcément le faire, mais c'est vrai qu'on s'était positionné l'année dernière pour être au Paris, qui est une salle qui est tenue par les Chevaliers du Fiel, et parmi les 24 artistes qu'il avait programmés, il ne reste plus que 12, et dans les 12, il ne reste plus que 11, puisque eux-mêmes sont sur scène, et sur les 11 sélectionnés, Olivia Moore et les Jumeaux sont présents, puisqu'ils ont été invités.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. With his song.
Yo, this is why Clef Refugee cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes.
Killing me soft.
Avignon est toujours une ville festive pendant le festival, donc c'est un public toujours de bonne humeur et toujours prêt à venir dans les salles. C'est vrai qu'on est venu à Avignon le 10 juillet, parce que la particularité du Paris, c'est qu'eux, ils n'ont pas pris de risque, ils n'ont ouvert que pendant 15 jours au lieu des 3 semaines et demie habituelles. Et la fréquentation était vraiment présente dès le début. Et suite aux annonces de Macron, il y a environ 5-6 jours, ça a commencé à un petit peu, pas à paniquer, mais ça a commencé un petit peu à freiner. Depuis l'annonce de Macron le 21 juillet, c'est vrai qu'on a eu énormément de mal hier, même si nos salles, on a de la chance parce qu'on a des artistes qui sont référencés, il y a toujours du monde, mais les collègues, on a beaucoup qui souffrent. Il y a juste à regarder le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, sur les terrasses. C'est pas l'Avignon que l'on connaît et que je pratique depuis un peu plus de 20 ans.
Alors moi, sur une dire si je peux me permettre, mais est-ce qu'on peut venir sur un plan personnel? J'aimerais que tu nous dises quelles étaient tes passions quand tu étais gamin?
Moi, je suis un enfant de la balle. J'ai toujours été dans le spectacle. Premier spectacle que j'ai... Je ne sais pas à quel âge je l'ai vu, mais je sais que le premier spectacle dans lequel j'ai travaillé, il me semble que c'était Michel Sardou. Je collais des étiquettes sur les chaises pour numéroter, puisque on jouait sous chapiteau. C'était les chapiteaux d'été. À l'époque, il n'y avait pas de salle de spectacle. Et pourquoi j'étais là-dedans? Puisque mon oncle était lui-même organisateur de spectacle.
D'accord. Et donc, tu as continué?
J'ai continué. Je suis parti sur un autre parcours professionnel divers et varié. Et donc, c'est vrai qu'à l'âge de 18-19 ans, j'ai eu cette opportunité d'aller sur le terrain pour faire des régies et apprendre tous les métiers du spectacle, le son, la lumière, l'organisation. Et de fil en aiguille, c'est vrai que comme j'étais jeune, je suis monté assez rapidement dans les bureaux et ça m'a plu. Et pourquoi devenir producteur de spectacle? C'est vrai que j'étais dans une société qui était quand même bien référencé, c'est que je n'étais pas forcément d'accord avec les sociétés pour lesquelles je travaillais. Donc au lieu d'avoir un mouvement syndicaliste pour dire non, c'est pas bien, il ne faut pas faire comme ça, ben, je disais rien, je disais bon, je passais à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai monté 20h40. C'est pour être autonome dans mes choix et dans les décisions qu'il y a à prendre.
Eh bien écoute, je ne vais pas t'embêter plus longtemps parce que je sais que le temps est précieux. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir donné un peu de temps. Je vais juste demander l'adresse de 20h40, adresse internet, le site, tout ce qu'on peut récupérer.
C'est Bruno, 20h40.fr. C'est une société qui se trouve à Lille, sur la rue Brûle-Maison, donc pas très loin du théâtre Sébastopol, puisque nous sommes voisins. Et notre site internet, 20h40.fr, avec le numéro que vous pouvez trouver directement sur internet et sur notre site.
Eh ben merci à toi.
Merci à vous.
It was early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover. Must be moving on, yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just a thought of those sweet ladies as I shiver through my veins. And I'm going shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
just can't tell. And some they will and some they won't, and some it's just as well. You can laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind me.
Salut.
Comment tu vas ?
Bien, et toi ?
Moi ça va. Alors on est au bord de l'eau, on est où et avec qui ici ?
On est au bord du camping de la Barthelasse.
C'est où ?
C'est Avignon.
Faut le dire parce que les auditeurs savent pas. Hein.
Avec Yann qui joue dans Mariage d'Enfer et Princesse Tarabuste et Amour Tactile au Paradise.
Alors je vais aller le voir. Alors Yann !
Salut !
Comment tu vas ?
Bah, ça va.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Apparemment t'es comédien.
Ouais, j'essaye. Alors, je joue dans Princesse Tarabuste, 10h25 le matin, au Paradise République, bien sûr, 9 rue Mignard, 84 000, Avignon.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part la comédie ? Est-ce que tu as des passions ?
Ouais, j'adore fourrer mes mains dans le cul des marionnettes. Je m'entraîne du lundi au mercredi, de 10h à 12h et de 17h à 19h. Et sinon, je fabrique des charentaises. Je suis fan de savates.
Alors, explique-nous comment tu fais.
Je m'assois sur un rocking chair et je mets des charentaises de bonne qualité. Et après, j'écoute du Joe Dassin. Ou du Frank Michael, ça dépend s'il pleut. Camoulox.
Et alors, la personne qui est à côté de nous, là, c'est qui ?
Alors lui, c'est un vrai Camoulox. C'est Camille. C'est un Rubik's Cube humain. Voilà, moi, j'ai pas réussi à le résoudre encore. Je te laisse faire. Bonne chance, Tintin.
Alors, tu fais quoi, toi ?
Alors, je suis régisseur. Je fais de la régie pour Mariage d'Enfer et Princesse Tarabuste avec Yann. Sinon, je suis ravi, je viens d'entendre une des meilleures définitions de moi de la part de mon collègue. Ce séjour est déjà merveilleux, je trouve, jamais été aussi bien. Et là, il vient de rajouter une petite couche, là, Yann, il vient de mettre la petite cerise sur le gâteau, tu sais. Avignon, c'était la crème. Tu sais, il y avait le gâteau avec la crème, puis il manquait un truc. Yann, il est venu, il a mis une cerise dessus.
Donc à côté de toi, on a qui ?
Un certain Sébastien Macha, un obscur personnage avec qui je jouais dans La Belle et la Bête. Je jouais la bête. et je lui hurlais dessus parce qu'il me volait une rose. L'immonde personnage.
Alors Seb, ouais. Qu'est-ce qu'on fait là au bord de l'eau?
Bah écoute, je sais pas pourquoi, ils ont voulu faire de la nature. Moi j'étais pas prêt psychologiquement, mais bon, il y a la 4G donc tout va bien.
En plus t'es venu avec papa et maman.
Ouais c'est ça, c'est ça. Maman elle a tout préparé, t'as vu, elle a mis les bonbons, elle a mis la bière bio, elle a mis... Bon elle a oublié les assiettes par contre, ça c'est nul.
C'est rien, on mangera avec les doigts.
Je prépare les branquignoles là, j'organise les tournées, je fais le... Branquignol, c'est la bande, c'est mes amis, c'est mes straps, tu vois. C'est Isabelle Virentin.
Eh ben à côté on a une nana avec qui j'ai tourné. Enfin j'ai pas tourné, enfin j'ai pas, on n'a pas eu de scène ensemble si tu veux, mais quand même on a tourné dans la même web série, c'est vrai. Hein, on a tourné dans le The Hunter, tu vois, c'est un truc déjà. Et moi je jouais le rôle d'un zombie. Donc déjà tu vois le côté acting. Tu l'oublies, tu sais, toi, tout ce que t'as à faire, tu vois. Bon, bref. Mais sinon, c'était sympa. Et donc, c'est une grande actrice aussi, une grande comédienne, une auteure. Wallah, je te jure que c'est vrai, elle est bien. La mademoiselle Charlotte Robin. Déjà, rien que le nom, c'est le nom de comédienne. Tu trouves pas? Moi, je trouve que c'est un nom. Ça mérite un gros nom sur une affiche, tu vois, de cinéma.
Donc Charlotte, après ses éloges.
Mon Dieu, je ne sais plus où me mettre. Je joue dans Les Demoiselles Roquefort. Super spectacle de Thierry Jim avec Nathalie Conta et Thierry. C'est trop bien, mais demain je finis. Demain je suis remplacée par une autre comédienne. Et oui, Florence, qui est une très bonne comédienne. Parce que moi j'ai un mariage. Et oui, parce que la vie c'est important. Les mariages c'est important et c'est le mariage de ma sœur. Moi je crois en l'amour, je suis une amoureuse.
Ouais. Donc à part ça, à part Avignon et à part les mariages, tu fais quoi tout le long de l'année?
Je fais quoi? J'ai ma compagnie, j'écris des spectacles pour enfants que je... Oui, tu connais un de mes spectacles. J'écris des spectacles pour les tout petits, pour les 18 mois à 5 ans, et des spectacles pour les 3 à 10 ans. Et j'ai un bourgeois gentilhomme aussi. Et c'est trop bien la mise en scène. Je fais la mise en scène, je fais les décors, les costumes. Je fais tout en fait. Mais je joue pas toute seule, il y a plein d'autres comédiens, c'est chouette. À Lyon, enfin en Rhône-Alpes. Je fais de la couture, je fais de la couture pour les enfants. J'ai un Instagram, Princesse Charlotte, couture et compagnie. Et je kiffe, c'est un gros kiff. Voilà, tu sais tout, je crois que j'ai rien d'autre à raconter.
Et toi, tu viens de Lyon?
Moi, je viens de Lyon et je suis aussi à Paris, mais pour tout ce qui est fiction, pour la télé, ciné, pub.
Alors toi, il paraît que t'es un voisin, que tu viens de Montpellier.
Je suis un voisin, exactement, ouais, j'habite à Montpellier. Ça fait 2 ans que je suis sorti de mon école et du coup, là, c'est mon premier Avignon. Et ça se passe plutôt pas mal et du coup, on est content. Et j'ai monté ma compagnie, le premier jeune public va sortir le 26 septembre, notre première création. Voilà, 2-3 courts-métrages et machin, on bricole quoi.
Alors si tu peux nous donner le nom de ta compagnie que tu viens de créer déjà, et où elle se trouve?
La compagnie La Houleuse à Montpellier, et la création s'appelle Le Petit Géant.
Magnifique, et ici à Avignon tu joues dans quoi?
Je joue dans Conclave Story, c'est une comédie qui mélange l'univers du Vatican à celui de la télé-réalité, c'est exactement la phrase que je sors à chaque fois que je fly. C'est 4 cardinaux coupés du monde, filmés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui sera le prochain pape?
Et donc du coup à côté de toi tu as qui?
Isabelle qui est comédienne dans... Oula, attends, j'ai un truc devant moi là.
C'est un micro.
C'est un micro, bonjour. Isabelle qui a pris... Je crois joue dans ado.com. Nous partons... Non, vive les vacances en famille. Voilà.
Salut Isa.
Bonsoir.
Comment que te vas?
Bien, et toi?
Moi ça va, il fait bon là, on est bien, on est au bord de l'eau, on va manger un morceau.
Ben oui, je fais découvrir mon petit paradis, mon petit jardin secret, comme on dit.
Alors, comment se passe ton Avignon?
Bien, il y a du monde, c'est plaisant, rencontre plein de gens sympathiques, c'est génial.
Ouais, parce que vous avez la chance de faire des complets quand même.
Oui, aussi, c'est vrai. On a beaucoup de chance de faire des complets.
Alors, qu'est-ce que tu fais en dehors d'Avignon dans l'année?
Dans la vie, qu'est-ce que je fais? Comédienne.
Oui, mais où, quoi?
Ben, je fais partie de la compagnie Crazy, et donc on fait des tournées un petit peu partout, dans toute la France.
Et toi, t'habites Bordeaux?
Moi, j'habite Bordeaux.
Et à Bordeaux, tu ne fais rien?
Et à Bordeaux, malheureusement, je ne joue pas. Et non, ben, j'ai joué, mais aujourd'hui, non, on joue beaucoup, on va dire un petit peu partout, mais Bordeaux, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est assez fermé.
She has a built-in ability.
On est toujours dans les rues d'Avignon, on est en face du Paris et je suis avec Arnaud Demanche.
Salut, ça va?
Comment tu vas?
Bah ça va super bien, je suis venu un peu en touriste voir les copains, voir un peu comment le festival se passait en année passe sanitaire et fin de Covid. C'est compliqué mais il y a un peu moins de monde, mais ça rend le festival plus léger. C'est-à-dire qu'on est un peu moins étouffé, on a plus le temps d'aller voir les choses. Et là je sors voilà, de Roman Doduic. Je sors du spectacle de Roman Doduic, je ne sors pas de Roman Doduic lui-même. Ce serait...
Il n'aura peut-être pas apprécié.
Ce serait un peu cavalier quand même. J'aime beaucoup le garçon, mais quand même. Bref.
Pas assez familier.
Oui. Non, mais c'est vraiment un super spectacle. C'est la claque d'Avignon. Moi, j'en ai pas pris une comme ça depuis très très longtemps. C'est vachement bien. C'est très bien parce qu'il a complètement intégré le fait qu'il était devenu une star sur TikTok et il en a fait une force pendant le spectacle. Et tout en préservant un objet de théâtre, c'est pas juste un youtubeur qui monte sur scène, c'est un vrai objet de one man show, qui en tient compte. Et cette combinaison-là, elle n'était pas évidente à trouver, il l'a trouvée, il l'a brillamment trouvée, c'est très très bien. J'ai vu Jean-Luc Lemoyne, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est pareil, c'est un patron quoi, tu sais, c'est les vieux de la vieille qui pleuvent, qui ventent, qui neigent, ils sont sur leurs appuis, ils sont solides et c'est toujours marrant. Et c'est un spectacle qui a un propos, ce qui est quand même pareil, un truc suffisamment rare dans le one man pour qu'on en profite quand il y en ait un. Donc allez les voir ces deux-là, franchement c'est les deux seuls que j'ai vus pour l'instant parce que je suis arrivé depuis pas longtemps, mais c'est de la bonne cam comme qu'on dit.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes projets à venir là, si on n'est pas trop embêté avec le Covid?
Alors si tout se passe bien, je reprends la tournée en août, je pars sur 80 villes. 150 dates et il y a aussi la programmation parisienne jusqu'en décembre pour mon stand-up à moi. Voilà. Si vous avez l'occasion et l'envie de venir, ça me fera vachement plaisir de vous voir, je peux vous dire. Parce que un an et demi sans jouer ou très peu, c'est un truc qui ne m'était pas arrivé depuis 10-15 ans. Donc j'ai hâte de remonter, j'ai hâte de redécouvrir et de reprendre ce plaisir-là, quoi. Donc venez, 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 venez. Venez à tout plein.
Moi, si je suis pas en tournée, je viendrai.
Ah bah j'espère bien. En plus je vais jouer dans ton secteur, donc chez les Lillois, et j'espère bien qu'il y en aura plein des Lillois, puisque c'est des belles salles qui sont prévues. Il y a Alain Léo Bourdin, et je crois qu'il se mijote un truc avec une très grosse salle à Lille, donc je croise les doigts, mais je ne peux rien dire, tout ça est secret.
En fait, tu nous avais déjà un peu parlé dans une autre interview qu'on avait faite il y a quelques temps. Et tu vois, il y a peut-être un petit quelque chose qui va arriver, mais bon, on est en train de discuter.
Voilà. On discute, on se dit, tiens, est-ce que faire un truc très grand avec des fauteuils rouges et des balcons, est-ce que ça ne se jouerait pas? Mais oh là là, mais je ne veux pas déflorer un secret et un mystère. Mais on en parle.
Bon, c'est le théâtre mythique, hein, de toute façon.
Chut, les gens vont t'entendre, les gens écoutent ce que tu dis dans la radio.
J'aimerais bien que tu nous parles d'autre chose. Il y a quelque temps, quand tu étais à notre micro, tu nous avais parlé d'un projet de film. On en est où?
Alors, je voulais faire Blanc et Hétéro, le film. Donc, le projet, c'est simple, il est en écriture. Et puis, dès que les producteurs pourront se relancer dans la production, parce que là, évidemment, le métier du cinéma a été tellement impacté que les productions sont un peu attentistes et attendent de voir comment le métier va se remettre. On reprendra ce dossier-là. C'est toujours la même histoire, qui est l'histoire dérivée du spectacle. Une comédie romantique entre un humoriste frondeur qui vient d'un univers un peu conservateur et une militante d'extrême-gauche qui a les cheveux bleus, mais qui est vachement gentille. Mais pour dire, on peut s'aimer même quand on a des opinions divergentes. Voilà. C'est pas une poignée de divergences d'opinion qui doivent remettre en cause la relation entre deux personnes. C'est tellement plus beau une relation, c'est tellement plus riche. Et voilà. Donc c'est en projet, c'est en cours. Mais venez voir le spectacle déjà, c'est déjà un bon pied dans la porte.
Alors en gros, mais vraiment en gros, est-ce que tu peux nous faire un peu ton parcours? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, de où t'es parti, comment t'as commencé, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé au stand-up?
Alors moi j'ai commencé en 2004. Je voulais rentrer dans la pub et pour ça, je me suis dit, je vais faire parler de moi. Comme ça, ils me connaîtront au sein de la boîte. Et j'avais ouvert un site en piratant les noms de domaine de Jacques Chirac, de jacqueschirac.com.org.fr, ça. Et j'avais fait un faux blog de Jacques Chirac. Ça a fait marrer Canal+. Donc, j'ai pas travaillé dans la pub, mais Canal+ m'a appelé. J'ai commencé à bosser pour Carl Zéro avec qui j'ai travaillé 5 ans. Et en parallèle de ça, j'ai monté une cérémonie de récompense du pire, des pires films, des pires acteurs, qui s'appelait les Gérards du cinéma et les Gérards de la télévision. J'ai fait ça avec deux copains. Ça a marché, j'ai présenté ce truc-là sur Paris Première pendant 7 ans. Et là, j'ai pris goût à la scène et j'ai décidé ensuite de me lancer dans le stand-up. Et tac, tac, badaboum, me voilà, comme dirait Jean-Paul Belmondo. Voilà. Et ça, c'est mon parcours. Mais j'ai aussi fait auteur pendant très longtemps. J'ai beaucoup écrit pour les autres. Et du coup, ça, au moment du stand-up, c'est pareil. Ça m'a aidé d'avoir fait ça.
Et pour Canteloup aussi.
Notamment pour Canteloup. Ça fait une dizaine d'années que je co-écris tous les matins avec Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian sur la matinale d'Europe 1.
Alors là, t'es pressé, je vais pas prendre plus de temps. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Site internet, Facebook, Twitter, ta salle de bain?
Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook Arnaud Demanche ou sur Instagram Arnaud Demanche aussi et sur TikTok Arnaud Demanche également. C'est quand même très simple, il n'y a qu'un seul nom. Et je reprends la tournée à partir de fin août. Je commence par Rennes, après il y aura Bordeaux, Angers, Marseille et Paris jusqu'à décembre.
Eh ben, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne promenade au festival.
Merci, à bientôt fiston, à bientôt.
Merci.
She's over born. Les auditeurs ont toujours au Festival d'Avignon, au théâtre Le Chien qui fume, pour la pièce 60 jours de prison de Louis Guitry, avec Olivier Lejeune. Bonjour.
Eh ben bonjour mon cher Emo, heureux de te retrouver.
Mais moi aussi, parce grand plaisir.
On va le dire, on va dans
depuis
les
longtemps.
Ouais. On s'est croisé X fois à Lille.
Oui, exactement.
À Reims aussi, peut-être.
Oh, peut-être, non, il y a plus. Lille, même
ouais.
À Paris, même à Paris.
Paris, oui.
Ouais. Alors là, on parle doucement parce qu'on est dans les loges et ça joue en même temps à côté.
Voilà, là, en ce moment, il y a un spectacle formidable, Natacha Régnier, la diva du jazz, avec celui qui a fait aussi la musique de mon Guitry, qui s'appelle Raphaël Sanchez. Voilà, donc on parle à pas feutrer parce que le plateau n'est pas loin.
Je jure sur l'honneur que c'est exactement ainsi que les choses se sont passées. À peine ai-je fait trois pas que font irruption dans mon bureau deux hommes armés d'une étrange pâleur. Oh les mains ! Pourquoi ces hommes sont-ils si nerveux et si pâles ? Non, certes, ils n'ont pas peur. Non, ce qu'ils ont, c'est le trac. Un trac d'acteur. D'acteurs qui rempliraient les rôles au-dessus de leurs moyens. Car à n'en pas douter, il y a de la comédie dans tout cela. Et moi aussi, de la posture. Un homme d'une quarantaine d'années qui porte une blouse blanche, et puis qui n'a pas l'air, en première vue, d'un mauvais bougre, m'accueille avec satisfaction par ces mots imprévus. Ah, voilà ce salaud. Je lui demande alors, nous connaissons ? Il me répond, oh, ça va. Dans une grande salle, une douzaine de tables, à chacune d'elles un tribunal, trois hommes. Nom, prénom, égalité, et tout de suite, la question la plus inattendue qui soit, pourquoi vous a-t-on arrêté ? Ah, vous n'avez aucune idée, non ? Et vous ? Ah, aucune. Et pourquoi une grosse dame blonde, gonflée à bloc, me traîne seul collabo ? Puis ne trouvant rien d'autre, elle agite, c'est l'assassin ! Ben qui c'est celui-là, lui demande quelqu'un. Affirmative, elle répond alors. Rému. Ne soyez pas de ceux qui haïssent jamais. Tâchez d'être plutôt parmi ceux que l'on est. On y est en meilleure compagnie.
60 jours de prison, est-ce que tu peux nous faire un peu le speech ?
C'est inédit au théâtre, c'est un texte qui n'a jamais été joué théâtralement, c'est un récit de Sacha Guitry. Je suis tombé dessus sur un livre qui a été publié en 1949, qui n'avait pas été repris depuis. D'ailleurs, le livre, c'est la reproduction de l'écriture de Guitry, c'est-à-dire que ça n'avait jamais été tapé à la machine, c'est-à-dire que c'est, je dirais, un journal qu'il écrivait au jour le jour, avec les dates. Donc là, évidemment, il y avait 160 pages, donc il a fallu en garder que 60 pour pas déborder. Déjà on fait une heure et demie avec 60 pages et c'est passionnant. Et en fait il raconte comment on est venu l'arrêter chez lui le 23 août 44 et qu'on l'a traité de collabo, hein, il a été, et qu'on l'a emmené pendant 60 jours, on l'a travaillé du dépôt à Fresnes, à Drancy, au Vélodrome d'hiver, donc le Veldiv. Il a failli, on l'a menacé, on lui a dit qu'il allait être fusillé, on lui a craché à la tronche. Et en même temps, ce récit est incroyable parce qu'il raconte tout ce qu'il a traversé, vécu, et toujours avec cet esprit. D'ailleurs, puisque tu étais dans la salle tout à l'heure, tu vois comme les gens rient beaucoup aussi. Et encore, c'est parce qu'il n'a jamais perdu sa superbe, mais Dieu sait s'il en a bavé. Il a fait 2 ans de déprime après ce qui lui est arrivé. Donc voilà, donc c'était le roi. On a voulu couper la tête du roi, il a sauvé sa tête, il a été blanchi par la justice. Et tout ça, il le raconte avec cette espèce de dérision et cette maestria et ce côté grand seigneur qu'il a et cet esprit. C'était un génie.
Alors c'est un seul en scène, mais tu fais plusieurs personnages.
Oui, en fait, je fais Guitry qui rencontre plein de gens. Donc, de temps en temps, je m'identifie aux autres personnages, que ce soit un juge, que ce soit un mec qui veut le tuer, que ce soit un malfrat, que ce soit ses avocats. Voilà. Donc, on a, je crois, une centaine d'effets lumière pour créer tous les lieux. On a des vidéos, pas trop pour ne pas tomber dans la mode actuelle, mais quand même des vidéos importantes. On voit Arletty, on voit des choses qui illustrent le Grand Palais qui est en flammes, la libération de Paris. On vit que c'était une époque très difficile, une époque où beaucoup de gens sont morts, exécutés comme ça. On pouvait se faire tuer sans donner aucune raison. Pendant un mois, les gens se faisaient abattre dans la rue et puis il n'y avait aucune raison à donner. C'était un collabo, bon, On tondait les femmes, on les marquait au fer rouge. C'est une époque trouble et pas glorieuse. Et puis même, les fameux FFI, Forces Françaises Intérieures, qui étaient presque en guerre avec les gendarmes, il y avait une rivalité. Et puis les FFI vexés, qu'à la limite, par moment, qu'on dise « Bon, c'est plus vous qui allez garder les présumés coupables », mais ils voulaient faire l'injustice eux-mêmes. Hein. Ils voulaient tuer. Le camp où était Guitry, plusieurs fois, a été attaqué. Donc, il a failli vraiment y laisser sa peau de trois fois très près. Donc c'est hallucinant. C'est un récit un peu à la Kafka où on mesure l'absurdité de cette époque-là et comment on pouvait être dans des rouages parce qu'en fait, il n'y avait aucun motif valable pour qu'il soit arrêté. C'était uniquement la rumeur publique. Cet homme avait vu les Allemands, il avait... c'est vrai que quand le maréchal Göring est arrivé à Paris, il a demandé « qu'est-ce qu'il faut voir à Paris ?» On lui a répondu « il y a la tour Eiffel ». Non, ce qui goûte, là, ce qui...
La clim. Ouais,
c'est la clim. Voilà, donc il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de tsunami qui va arriver. Donc le maréchal Göring, quand il est allé sur Paris, on lui a dit « qu'est-ce qu'il faut voir ?» On lui a dit « il faut voir le Louvre, la tour Eiffel et Sacha Guitry ». Alors évidemment, il a continué à jouer pendant la guerre. Et c'est ce qu'on lui a reproché, mais il a pas du tout pactisé avec l'ennemi, il a joué, il a fait son métier, c'est tout.
Ça fait ma 9e place ici, et je peux dire sans mentir que j'ai jamais entendu mes patrons parler d'autre chose que d'argent ou de domestique, à moins qu'ils ne s'engueulent.
Comment c'est le ministre cet homme-là?
Ah, bah écoutez, il a l'air bien correct pour un ministre.
Tu nous parles un peu de d'Arletty, tu nous parles un peu d'autres personnages, et... Ben j'avoue que j'étais beaucoup surpris, moi, parce que je m'attendais plus à un récit sur Guitry plutôt que jouer le personnage, en fait. Et du coup, j'étais agréablement surpris parce que on est vraiment dans l'aventure. Moi, je sais que tu es un fan de Guitry, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais que c'est naturel pour toi. Mais je pense que beaucoup de gens ont été surpris de l'interprétation parce que tu fais pas du Guitry, mais on y croit.
Ça, c'est un très beau compliment. C'est mon 4e, hein. Guitry, j'ai joué le Nouveau Testament, Une Folie, puis le Mémoire d'un Tricheur, grâce à Eric Emmanuel Schmitt. Et c'est vrai que je le vis de l'intérieur et que ça aurait été une hérésie. Certains ont fait du Guitry en imitant Guitry. En fait, je ne l'imite pas, je le vis de l'intérieur et j'abuse de sa ponctuation qui est excellente. Je dirais que c'est presque le Mozart du mot. Je crois que j'ai rarement vu un auteur aussi bien ponctuer ses textes, mettre une virgule après un et, après un mais. Ce ne sont pas les mêmes inflexions quand tu joues trois petits points, point virgule, un tiré du 6, une point d'interrogation. Je respecte vraiment la musique et je m'aperçois que quand on respecte la musique, qui la ponctue comme une partition.
Je me sens transformé depuis quelques heures. Ça ne se voit peut-être pas encore, mais si vous preniez la peine de descendre avec une petite échelle de soie dans mon cœur, vous verriez qu'il a le même âge que vous.
Eh bien, on est dans le ton de Guitry, et du coup, là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'effets comiques qui se sont faits. Je me suis amusé vraiment, enfin amusé, alors que c'est aimé, à respecter vraiment sa ponctuation. Puisque j'ai une bonne mémoire visuelle, et ben là, ça tombait, les rires tombaient, alors que si j'y avais joué autrement, il y aurait pas eu le rire. C'est très surprenant. C'est Guitry, c'est mon idole, hein, depuis tout petit. Donc quand on a une idole, il y a eu Arsène Lupin. C'est vrai d'ailleurs, à un moment c'était mon autre idole. Et je me souviens, je mettais des Arsène Lupin dans les paires de chaussettes de mon père, de ma mère. Je mettais des petits mots Arsène Lupin, des petites cartes de visite, parce qu'Arsène Lupin, il laissait toujours une carte de visite signée. Je pense, je parle d'Arsène Lupin parce que je suis aux côtés de Jean-Michel Lupin qui a un spectacle de magie. Et voilà, on a des idoles. Ouais. Lupin et Guitry, c'était mes deux idoles.
Alors, il y a un moment... même plusieurs moments, on n'a pas tous ri au même endroit, et moi je me suis vu rire, même le public, à des moments tragiques quand même, c'est incroyable.
Oui, parce qu'en fait c'est l'incroyabilité, si le mot existe, des situations, et du coup c'est un rire nerveux. On se dit, ça fait du bien de rire, parce que du coup c'est une nervosité qui s'échappe, et on se dit, mais c'est pas possible. Et puis, c'est parfois dans l'horreur des situations, et surtout ces réactions de Guitry, ce qu'il raconte Par exemple, quoi, quelqu'un le traite d'assassin, puis quelqu'un dans la cour de la prison lui dit « Mais c'est qui celui-là avec la bonne femme ?» Elle répond « Bah, c'est Rému. Ça nous arrive à tous. Hein. » Moi, combien de fois, à mon petit niveau, on me dit « Oh, bah, merci, monsieur Pascal Sevran, pour votre programme. Merci, monsieur Lucien Jeunesse. » Donc, voilà. Donc,
mais c'est dommage, parce que c'est tous des morts, quand même.
Roger Zabel aussi, j'y ai droit. Et lui, il est en vie, Dieu merci.
Soul, and it's taking you so long to find that you're wrong.